les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La teneur moyenne en oxyde de carbone, faible et pas encore inquiétante. Tiens, les moteurs à diesel émettent en général peu d'oxyde de carbone. Tiens. Le chauffage urbain à Paris va reporter les fumées loin du centre et dès que l'on sort de Paris, l'oxyde de carbone n'existe plus. Tiens. Nous étions le 21 avril 1959. Mais sur la chaîne nationale, dans Édition spéciale, on s'inquiétait néanmoins de la pollution de l'heure et de la pollution à venir. Heureusement, les ingénieurs veillaient.
Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parlé.
L'air devient impropre à la consommation. Alerte, une réalisation de Fernand Lotte. Une des grandes questions intéressant l'humanité tout entière, à l'ordre de l'actualité, à l'ordre du jour du Salon de la Santé qui se tient en ce moment au Grand Palais, la pollution, principalement dans les villes, de l'air que nous respirons, air, qui devient de plus en plus impropre à la consommation, et dont nous acceptons stoïquement les souillures, alors que nous refuserions énergiquement d'avaler une goutte d'eau non potable.
Quelles sont les principales causes de cette viciation de l'atmosphère? Je pose la question à l'un des hommes les plus compétents dans la matière, à M. Quéré, secrétaire général du conseil d'administration de l'Active Association pour la prévention de la pollution atmosphérique.
Eh bien, monsieur, c'est très simple. Il y a trois causes principales de pollution. La pollution par les industriels, la pollution par les foyers domestiques et la pollution par les gaz d'échappement des véhicules automobiles.
Quels sont les dommages causés par la pollution?
Oh, ils sont énormes. Je vous citerai d'abord les dommages causés à la végétation en vous rappelant un souvenir pas très agréable de l'occupation allemande. Les polonias des squares de Saint-François-Xavier ont fleuri uniquement pendant l'occupation allemande au moment où la circulation automobile était complètement arrêtée. Ces polonias ne fleurissent plus. Je pense maintenant aux dommages causés sur les immeubles. Nous pouvons estimer à 240 milliards de francs par an les dépenses supplémentaires dues à la pollution, c'est-à-dire 6 000 francs par habitant et par an. Maintenant, en ce qui concerne les maladies, nous pouvons maintenant être à peu près sûrs, les études sont faites là-dessus, nous éclairent hélas sur ce fléau. Les aérosols qui sont contenus dans les brouillards et dans les smogs sont le meilleur véhicule de transport des virus. D'autre part, les gaz d'échappement des voitures et les fumées produites par les combustions incomplètes laissent échapper dans l'atmosphère des carbures d'hydrogène, dont l'un en particulier contient du benzopyrène, qui est un corps essentiellement cancérigène.
Et où en sommes-nous à Paris?
Il y a une législation en cette matière qui est la loi Morizet. Mais la loi Morizet ne vise que les industriels. Il y a bien également une ordonnance du préfet de la Seine-Bello, mais elle est également faite pour les industriels. Par conséquent, les foyers domestiques, qui représentent, comme je viens de vous le dire, 40 à 50% de la pollution atmosphérique, ne tombent absolument pas sous le coup d'un décret ou d'une ordonnance.
Quels remèdes à prescrire?
Il faudrait d'abord informer le public et l'éduquer. Le public doit savoir que toute fumée est l'indice d'un gaspillage de combustible et d'une combustion incomplète. Il faut par conséquent commencer par éduquer les chauffeurs de chaudière. C'est le rôle d'une école que nous avons fondée. Il faut également songer que les mazouts sont des produits excessivement sulfureux et que par conséquent il faut les employer à bon escient, le garnir quand le chauffage est important, garnir la cheminée d'un capte-suie bien étudié. Il faut le plus possible propager le chauffage collectif. Il y a des combustibles qui sont à peu près sans fumée. Vous avez le coke, vous avez les charbons maigres, vous avez l'anthracite. Tous ces combustibles-là, évidemment, doivent être employés de préférence au charbon dit gras, à haute teneur en matière volatile et à haute teneur en soufre.
Et il y a le gaz de lac sans fumée et il y aura aussi le gaz du Sahara,
qui constitue évidemment un combustible sain, propre par excellence et qui doit être répandu le plus possible.
Un building de dimension considérable vient de s'édifier à Paris, à l'emplacement de la tranchée du chemin de fer de ceinture, entre la place Eugène Flachat et le boulevard Berthier. Comment ce gigantesque bloc est-il chauffé sans que l'on n'en puisse rien soupçonner à l'extérieur, car aucune fumée ne se manifeste ?
Nous sommes dans un vaste sous-sol d'une cinquantaine de mètres de long, d'une quinzaine de mètres de large, où on est frappé par une impression d'espace, de clarté, de netteté, de propreté. Que voyons-nous là-bas, Monsieur Bernard ? Monsieur Bernard est l'ingénieur en chef, réalisateur avec l'architecte Monsieur Cassan de cette chaufferie New Look. Je pense que c'est le silo à coque, n'est-ce pas ?
À l'extrémité que vous désignez, vous voyez les appareils de reprise du coque qui prennent le coq dans le silo.
Et la capacité de ce silo ?
La capacité de ce silo est de 180 tonnes, soit 10 jours de marche à allure maxima. La chaufferie est équipée avec 6 chaudières, 5 chaudières d'une puissance nominale de 1 million de calories chacune et une chaudière d'une puissance nominale de 400 000 calories destinée à la production d'eau sanitaire pendant la saison d'été. Les chaudières sont des chaudières automatiques à foyer soufflé. Le bruit que vous entendez actuellement correspond au démarrage d'un ventilateur, la température de l'eau s'étant abaissée au-dessous du point de contrôle, l'Aquasta a fermé le circuit qui remet en marche le ventilateur de soufflage.
Et avec ceci, que chauffez-vous ?
Alors avec ceci, nous produisons la chaleur nécessaire au chauffage d'un groupe d'immeubles groupant 210 appartements, du bâtiment administratif de Gaz de France dans lequel les bureaux sont chauffés par 1500 radiateurs, et nous fournissons aussi la chaleur nécessaire à la production d'eau sanitaire des appartements.
Et tout cela sans un atome de fumée à l'extérieur. Quant à l'heureuse solution du chauffage urbain, nous en aurons un saisissant exemple à Bercy. Nous sommes en ce moment dans la vaste et puissante chaufferie de la rue de Bercy, dont vous entendez les pompes d'alimentation. Ici, il ne s'agit plus seulement de chauffer un groupe d'immeubles, mais de desservir de très nombreux abonnés à travers Paris. N'est-ce pas, Monsieur Vissek ? Je m'adresse ici au directeur technique de la compagnie parisienne de chauffage urbain. Combien sont actuellement vos abonnés, monsieur ?
Eh bien, la compagnie parisienne de chauffage urbain distribue la chaleur sous forme de vapeur à près de 1000 abonnés. Immeubles administratifs, publics et privés, hôpitaux, écoles, salles de spectacle, grands magasins, immeubles d'habitation, quelques industriels. La vapeur est utilisée principalement au chauffage des locaux, mais aussi au service d'eau chaude, à la cuisine, à la blanchisserie et à quelques usages industriels. La vapeur est distribuée au moyen d'un réseau de canalisation posé sous voie publique, dont le développement atteint actuellement plus de 60 km. Ce réseau est alimenté par deux usines d'incinération d'ordures ménagères, une à Ivry, une à Saint-Ouen, la centrale thermique EDF d'Ivry et les moyens propres de la compagnie, la chaufferie de Bercy où nous nous trouvons et la chaufferie de Grenelle. La production annuelle se répartit à peu près également entre ces trois catégories de moyens de production. Pour vous donner quelques chiffres, en 1958, la quantité de vapeur livrée au réseau s'est élevé à 1 200 000 tonnes. Le débit instantané le jour de la plus forte pointe a été de 530 tonnes à l'heure par moins 2 degrés de température extérieure.
C'est donc un ensemble considérable. Et quels sont les principaux avantages du chauffage urbain ?
Nous n'avons pas le temps de parler des avantages économiques. Et je vous dirai simplement qu'en ce qui concerne la pollution de l'atmosphère, le chauffage urbain permet de supprimer l'émission de fumée par la multitude des cheminées d'immeubles des quartiers résidentiels. L'émission de fumée est reportée loin du centre. Elle s'effectue en quelques points seulement par des cheminées de grande hauteur d'où les gaz s'échappent à une grande vitesse. D'autre part, ces fumées contiennent moins de produits nocifs ou gênants en raison de la meilleure combustion et du dépoussiérage que rendent possibles les installations des grandes chaufferies.
Les filtres antifumées sont extrêmement efficaces, n'est-ce pas ?
Oui, je peux vous dire que les grandes centrales de l'électricité de France sont équipées de dépoussiéreurs de différents types dont le rendement atteint 99%.
La question la plus grave, la plus épineuse, reste sans doute celle de la circulation automobile. Que représente le danger des produits constituant les gaz d'échappement des voitures? J'interrogerai ici le professeur Moureux, directeur du laboratoire municipal de Paris.
Parmi les composés nocifs que l'on trouve normalement dans les gaz d'échappement des véhicules automobiles, le plus abondant et certes aussi l'un des plus nocifs est l'oxyde de carbone, que dans nos déterminations nous prenons comme test du degré de pollution créé par l'intensité de la circulation automobile.
Et à quelle méthode d'investigation, monsieur le directeur, recourez-vous ici?
Le dosage de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère est effectué à l'aide d'excellents appareils enregistreurs de conception et de fabrication française. Mais pour pouvoir suivre le degré d'intoxication éventuelle, nous avons été amenés à mettre au point une méthode de dosage de l'oxyde de carbone dans le sang, précise et rapide, qui présente ce grand avantage de ne nécessiter qu'une prise minime de sang de l'ordre de 1 cm cube.
Les études que vous poursuivez ainsi depuis des années vous conduisent-elles à des enseignements, à des conclusions précises?
Certainement, en voici quelques-unes. La teneur moyenne en oxyde de carbone, basée sur des milliers de déterminations, demeure faible et n'est pas encore inquiétante. Les expériences que j'ai été amené à effectuer à deux reprises sur 36 volontaires ont montré que pour des travailleurs astreints à séjourner quelques heures durant sur la chaussée, en des endroits à trafic intense, il n'existait pas actuellement de risque d'intoxication chronique. Les conducteurs des véhicules automobiles me paraissent davantage exposés, car ils respirent directement dans les longues files de véhicules au ralenti l'oxyde de carbone émis par les voitures qu'ils précèdent, si bien que nous déconseillons, du point de vue de l'hygiène, le recours aux dispositifs de ventilation lorsque il réalise en définitive, dans une file, la captation des gaz d'échappement de la voiture qui précède. Dès que l'on s'élève de 2 à 3 mètres, la teneur en oxyde de carbone tombe heureusement à des valeurs minimes. J'ajouterai même que dès que l'on sort de Paris, l'oxyde de carbone n'existe plus qu'en traces sans conséquence. Nos amis de banlieue sont donc très favorisés dans ce domaine. Cette note non pessimiste ne doit cependant pas nous faire perdre de vue que depuis 3 ans, la teneur en oxyde de carbone dans les voies de Paris a augmenté de 60% et qu'il importe en conséquence d'employer tous moyens appropriés pour enrayer cette montée.
En quoi peut-on réduire la pollution de l'atmosphère par les gaz d'échappement des voitures automobiles? C'est à M. Max Servis, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, que je poserai cette question.
Pour s'en rendre compte, il faut d'abord, à mon avis, se pénétrer de l'idée que la toxicité des gaz émis par ces moteurs dépend dans une énorme proportion de la catégorie considérée, moteurs à explosion ou moteurs diesel, et plus encore des conditions de fonctionnement envisagées, vitesse de rotation et surtout charge. C'est ainsi que les moteurs diesel n'émettent en général presque pas d'oxyde de carbone, sauf en cas de surcharge, tandis que les gaz évacués par les moteurs à explosion d'automobiles peuvent contenir, suivant les conditions de marche, de 0,1% à 5% ou même 10% d'oxyde de carbone. Des constatations différentes, mais assez analogues, pourrait être faite au sujet des faibles quantités de carbure d'hydrogène résultant de la vaporisation et de la décomposition par la chaleur du combustible ou de l'huile de graissage, ou même de leur oxydation partielle dans les moteurs. Quant aux dérivés du plomb, il n'y en a ni dans les moteurs diesel, ni dans les moteurs à explosion, utilisant une essence non éthylisée.
Quel conseil faut-il donc, monsieur le professeur, donner aux automobilistes ?
On peut penser et proposer un premier moyen de réduire la toxicité des gaz d'échappement des moteurs d'automobile, moyen qui consisterait à conduire avec plus de discernement, c'est-à-dire en évitant d'abuser du starter, des reprises brutales à basse vitesse et en général des régimes de surcharge ou des réglages exagérément riches. Monsieur Henri M. de Balzac, moi-même, avons rédigé dans ce but des recommandations. Un second fait qui a une importance capitale pour le problème qui nous occupe est que les produits les plus dangereux, c'est-à-dire l'oxyde de carbone et éventuellement les petites fractions des carbures d'hydrogène qui pourraient jouir de propriétés cancérigènes, sont des produits combustibles et par conséquent réductibles par simple oxydation en acide carbonique et en vapeur d'eau, exempt de tout danger. Nous avons ainsi été amenés à expérimenter, au point de vue qui nous occupe, des dispositifs que nous avons conçus dès 1949 et que nous avons baptisés régulateurs MS. Les résultats obtenus prouvent que, pour les moteurs à explosion qui sont beaucoup les plus nombreux, on peut réduire l'oxyde de carbone de 60% à 80% de sa valeur habituelle, moyennant une perte de puissance de l'ordre de 2 à 4% seulement, et même supprimer complètement ce gaz en acceptant un fléchissement un peu plus marqué des performances du moteur. Il est d'ailleurs a priori certain que les traces de carbure d'hydrogène habituellement présentes doivent être réduites par le même procédé, à peu près dans la même proportion, et nous avons constaté que c'était aussi le cas pour les suies et poussières. De toute manière, on peut conclure en disant qu'il existe actuellement au moins une solution très rapidement applicable pour résoudre les problèmes de la pollution de l'atmosphère par les gaz d'échappement de moteur.
L'air devient impropre à la consommation. Alerte, une réalisation de Fernand Lotte.
Vous venez d'entendre Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parler.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 21 avril 1959. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Lead out the door. Lead out the door. Lead out the door.